France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Joséphine Reinhardt, Sacha Mattei, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et la technique ce matin, c'est Dalia. Un an après les journées de révolte et de violence en Nouvelle-Calédonie, les discussions entre États français indépendantistes et non indépendantistes n'ont pas abouti. C'est l'occasion pour nous d'une série sur les fractures entre Paris et les Outre-mer. Paris qui veut justement mettre les Outre-mer au cœur d'une stratégie internationale mais qui ne parvient pas à résoudre les crises. Aujourd'hui aux Antilles, le poison de la vie chère.
Il n'est pas question qu'un rouleau de papier cul coûte 1,60€ en France et qu'ici, on la paye 8,80€. Ce n'est pas possible. Les parents ont envie d'envoyer leurs enfants à l'école, le ventre plein. On n'arrive pas, on ne peut plus. Moi, j'ai pris mon petit-fils chez moi parce que ma belle-fille ne peut pas nourrir son enfant.
Le gouvernement va devoir prendre ses responsabilités. Parce que, alors on continue à nous vendre liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit du tout. Vous rendez compte des prix avec 300% de marge, 250% de marge. Elle est où l'égalité? Elle est où la fraternité?
L'opacité et l'accumulation des marges à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement est au cœur du problème et de la cherté de la vie. L'État, et je sais qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de contestations, doit enfin jouer pleinement son rôle protecteur.
La Martinique, ses plantations de goyaves, de bananes, ses vergers de citronniers et des enfants qui ne peuvent pas manger à leur faim. Pardon. Je suis désolée, c'est vraiment ridicule. Les grandes compagnies ne savaient pas que le fil est mince qui sépare la faim de la colère, écrivait Steinbeck. C'est vrai que le témoignage de cette dame au début était difficile et... À l'automne dernier, ce sont elles, ces compagnies en particulier, que les manifestations ont visé. Ces grandes compagnies qui se partagent le marché des Antilles et que la justice a contrainte récemment à lui transmettre leur marge arrière. Depuis le grand mouvement contre la vie chère, qui a duré plusieurs semaines entre septembre et novembre dernier en Martinique, Manuel Valls a promis un projet de loi pour s'attaquer à tous les facteurs des surcoûts exorbitants qui se vérifient toujours dans les Antilles. Et ce, malgré les mesures prises suite à un précédent mouvement en 2009, parti cette fois de Guadeloupe et mené par un collectif structuré quand les manifestations de l'automne en Martinique ont été plus spontanées. Quelles sont les racines de la vie chère aux Antilles? Qu'attendent de l'État français les porte-paroles du mouvement? Alors il est 5h du matin et 3 minutes en Guadeloupe où vous êtes, Pierre Audin à Pointe-à-Pitre. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université des Antilles. Vous avez écrit « Profitation », alors avec un W, c'est un mot créole, « Lutte syndicale au pluriel et anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique », paru en 2019 aux éditions La Découverte. Bonjour Fred Constant.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes haut fonctionnaire et professeur en sciences politiques. Vous avez écrit « Une géopolitique des Outre-mer », paru au Cavalier Bleu en 2022, qui va être réédité le 22 mai. Alors revenons d'abord sur les grandes mobilisations de septembre-octobre. À l'inverse de ce qui s'était passé en 2009, Pierre Audin, ce n'est pas en Guyane, ce n'est pas en Guadeloupe que le mouvement a été lancé, mais en Martinique. Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur, en particulier le 1er septembre dernier, quand commencent les premières manifestations?
Alors, ce serait difficile de remonter. Moi, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu un événement complètement déclencheur en particulier. En revanche, ce qu'on voit à partir de la fin de l'été 2024, c'est une multiplication de témoignages sur les réseaux sociaux de la part de citoyens martiniquais qui se rendent dans les supermarchés et qui vont constater les prix, mais expliquer les écarts de prix entre les produits qu'ils achètent en Martinique sur place et ceux qu'on pratique dans l'Hexagone. Et assez vite, en fait, ces témoignages qui sont des témoignages de colère, hein, deviennent des témoignages viraux. C'est-à-dire ils vont beaucoup, beaucoup circuler dans les réseaux sociaux, y compris chez les Antillais qui sont émigrés en France hexagonale. Et à la suite de ces interpellations, on va commencer à avoir des mouvements de consommateurs et de citoyens qui vont aller bloquer l'entrée des hypermarchés, qui vont protester, qui vont bloquer les caisses avec des caddies pleins. Ils se présentent en caisse en expliquant qu'ils sont pas en mesure de payer les denrées qu'ils ont achetées.
Ils arrivent en caisse et finalement ils laissent tout sur la caisse.
Voilà, c'est une action de protestation pour ralentir l'activité des supermarchés. Et petit à petit, ce mouvement qui va prendre d'abord dans l'opinion, il va donner lieu à la suite à des actions de blocage, des axes routiers notamment. Et puis ça va déboucher après sur la fondation d'un collectif citoyen qui s'appelle le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes en Martinique, le RPRAC.
Le RPRAC, Fred Constant, qui est une association toute récente, créée en septembre, qui envoie une lettre ouverte à différentes autorités. Dès le départ, est-ce que c'est à l'État français qu'il s'adresse ou c'est une adresse plus large ?
C'est une adresse plus large puisqu'elle vise principalement à ce moment-là, dans cette séquence particulière, la grande distribution. Naturellement, il est question aussi des autorités publiques dans le texte, d'une manière générale, indifférenciée. Et on reviendra sur ce point puisque ça dénote aussi, entre guillemets, et c'est pas un jugement de ma part, un amateurisme de ceux qui dirigent ce mouvement, une méconnaissance de la répartition des compétences, de la réglementation en vigueur, du rôle de chacun dans les mécanismes de formation des prix d'une manière générale.
Même si bien malin, qui peut aujourd'hui établir un schéma de construction des
prix,
de mécanismes de prix?
On sait, on y reviendra aussi, on connaît tous les maillons qui interviennent dans ce mécanisme-là qui reste opaque. Ce qui est opaque dans ce mécanisme-là, en fait, c'est moins la succession et la juxtaposition d'acteurs que la manière dont chacun va prendre sa marge pour enchérir les prix.
On va explorer en effet les racines de cette vie chère, elles sont multiples. Sur le mouvement lui-même, vous parlez d'une forme d'amateurisme. Il faut dire que ce mouvement en Martinique en 2024, contrairement à ce qui s'est passé en Guadeloupe en 2009, n'est pas du tout lié au syndicat, par exemple.
Absolument. C'est d'ailleurs les trois promoteurs, puisqu'il y a un triumvirat qui prend la tête de cette association, de ce qui est devenu une association, mais qui n'était pas au départ, qui était un mouvement plutôt informel, qui était surtout marqué par son activisme numérique. Et ça, c'est une première dans la mobilisation sociale aux Antilles, je pense même pouvoir le dire, à l'échelle de l'ensemble des Outre-mer. Une forme de mobilisation, alors un de mes collègues appelait ça TikTok, parce qu'il y avait beaucoup d'utilisation des réseaux sociaux. Et c'est par ce biais-là qu'ils se sont fait connaître, sans vraiment qu'il y ait une doctrine ou un adossement à des pratiques syndicales conventionnelles.
Il s'agit, celui dont vous parlez, c'est Rodrigue Petitot, l'un des trois meneurs, on va dire, de ce mouvement. Il y a Aude Goussard, Gladys Roger et Rodrigue Petitot, quelqu'un qui s'exprime, c'est vrai, de façon véhémente, qui a sur ses réseaux sociaux de très très nombreux abonnés et qui, à cette occasion, a senti aussi que le succès qu'il avait en rencontrant, en parlant des prix des produits alimentaires, l'a incité à continuer.
2024, c'est pas un nouveau combat. 2024, c'est la continuité de 2009. Donc, ceux qui devaient amener la pierre à l'édifice l'ont fait en 2009. Aujourd'hui, c'est de nouvelles armes, nouvelles communications, nouveaux moyens, les réseaux sociaux. C'est à notre tour, c'est à cette génération de se mettre au combat. C'est le combat du peuple, c'est tout le monde, parce qu'il y a eu une communication qui a été faite au départ. On expliquait que ce combat, on le veut vraiment pour le peuple, par le peuple. Donc, pas de syndicat et pas de politique. Mais lorsqu'on dit ça, il faut comprendre l'image qu'il y a derrière. Un syndicat, c'est un terme, mais c'est les gens du peuple qui sont dedans. Donc, c'est pas parce qu'on fait partie d'un syndicat qu'on ne peut pas adhérer au combat. On veut que ce combat soit mené sans aucune bannière. Ça veut dire que c'est le peuple en avant et c'est tout.
Rodrigue Petitot sur Créole Influence le 4 octobre dernier. Lui fait le lien directement, il parle de continuité de ce mouvement de 2024 avec celui de 2009 en Guadeloupe. Est-ce qu'on peut parler, Pierre Audin, d'un mouvement d'ampleur comparable en intensité à ces grandes manifestations de 2009 auxquelles il se réfère?
Alors, c'est difficile de tabler vraiment sur d'établir une comparaison drastique qui les mettrait sur un pied d'égalité, hein, parce que comme vous l'avez rappelé, bon, de 2009 ça commence en fait en 2008 avec des mobilisations sur le prix de l'essence, et en tout cas en Guadeloupe ça fait suite à des élections professionnelles qui sont largement gagnées en Guadeloupe par le syndicat indépendantiste l'UGTG, et suite à ces élections en fait l'UGTG va lancer un appel aux autres organisations syndicales, donc d'abord dans un cadre intersyndicale assez classique, pour lancer une mobilisation pour la hausse des salaires et contre la vie chère. Et c'est un petit peu ce qui va donner naissance au collectif LKP, au collectif Lyonnais contre profitation. C'est ce mouvement, cet ancrage intersyndical, et puis à la suite des premières mobilisations qui commencent à la fin du mois de janvier 2009 en Guadeloupe, à partir du 5 février, il va y avoir un mouvement similaire en Martinique, qui d'ailleurs va s'appeler K5F, hein, le collectif du 5 février, qui va lui aussi, on va prendre la suite des manifestations guadeloupéennes, et là aussi avec une centralité des organisations syndicales martiniquaises. Donc en termes de présence des organisations syndicales, mais aussi en termes de revendications, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, c'est pas exactement le même mouvement qui se joue. Et bon, une des différences quand même assez notables, c'est que en 2009, il y avait cette centralité syndicale et puis cette centralité, je dirais, du répertoire d'action des syndicats, ouais. À savoir le fait de faire grève, de paralyser l'économie et de faire des manifestations de rue. Ce qui fait que pendant les mouvements de 2009, ce qui est extrêmement marquant dans le souvenir collectif, c'est le fait qu'il y avait à la fois des blocages, des pénuries dans la grande distribution, et puis des manifestations extrêmement importantes qui rassemblaient plusieurs dizaines de milliers de personnes, ce qui à l'échelle de la Guadeloupe ou de la Martinique est tout à fait considérable. Bon, il n'y a rien eu quand même de tel du point de vue des manifestations des rues ou de la capacité de blocage ou même de la durée du mouvement, hein, parce que je rappelle que dans le cas guadeloupéen, ça dure quand même pendant 44 jours. Il n'y a rien eu de tout à fait similaire. Par contre, ce qui est c'est sensible, et c'est pour ça que Rodrigue Petitot s'inscrit dans la continuité, c'est que il y a à la fois une centralité des revendications et de la question de la vie chère et tout un tas de problématiques qui sont connexes. Et puis il y a cette idée d'intervention populaire, c'est-à-dire que c'est le peuple qui descend dans la rue. D'une certaine façon, c'est le peuple contre les élites économiques ou politiques. Et ce cadrage-là de la mobilisation, il était à la fois présent en 2009 et de nouveau en 2024.
Fred Constant.
Oui, je pense qu'on peut ajouter à ce que vient de dire Pierre Audin qu'il y a une continuité sur le fond, puisqu'en réalité, c'est un mouvement qui s'inscrit dans cette longue suite de protestations égalitaristes, hein, ou qui visent l'égalité entre les Français d'outre-mer et les Français de l'Hexagone. Et je crois que cette toile de fond égalitariste, même si l'expression tactique que le RPRAC a donnée à ses initiatives est parfois désordonnée, elle demeure. Hein, cette toile de fond demeure, c'est-à-dire que il le dit avec sa rhétorique propre, que comment peut-on être français? Est-ce qu'on est vraiment en France, en Martinique ou en Guadeloupe, quand il y a autant de différentiels dans les prix, puisque c'est l'entrée qu'il a choisie. Mais quand on va plus loin, on est plus attentif à ce qui est dit, à ce que le mouvement agit en réalité, on se rend compte que ce n'est qu'un écran de projection d'autres revendications et d'autres frustrations. Hein, voilà. Par exemple, il est certain que derrière cette entrée sur le coût de la vie, il y a aussi une revendication d'une participation plus forte, d'une capacité à agir plus forte des citoyens en Martinique dans la définition de ce qu'est leur avenir et leur présent. Hein. Donc il y a ces choses-là. Mais c'est, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est exprimé dans des formes non conventionnelles, pour le dire avec l'accent du sociologue, et sans jugement, alors que nous étions habitués à des cadrages qui étaient beaucoup plus lisibles pour les observateurs, comme pour une bonne partie de la population. Parce qu'on ne l'a pas dit encore, mais il y a une partie de la population qui, tout en partageant le fond de cette mobilisation populaire, vraiment rejetait la forme qu'elle a pu prendre, y compris sur le plan simplement rhétorique.
Et le fait qu'il y ait eu aussi certaines violences, des bâtiments brûlés, le mouvement qui n'a pas ni contenu les violences ni les a réellement déplorées. Quand le 21 septembre, Paris envoie en renfort les CRS, la 8e compagnie qui n'avait pas mis les pieds sur l'île depuis 1959, ça choque beaucoup en Martinique. Donc des grandes différences entre le mouvement de 2024 et celui de 2009 en Guadeloupe, une ampleur moindre, mais des raisons, des revendications qui sont les mêmes, les causes du mal sont les mêmes, et comment l'expliquer, Pierre Audin, puisqu'après 2009, des mesures avaient été prises. En 2012, la loi Lurel pour garantir davantage de concurrence entre les acteurs des marchés, pour mettre en place un bouclier prix sur un panier de biens dont les prix étaient censés être gelés. Ça veut dire qu'ils ne le sont plus.
Oui. Alors, bon, je me permets aussi de rappeler un petit peu qu'en 2009, ce qui avait quand même changé la donne avant qu'il y ait ces mesures institutionnelles de 2012 pour tenter de réguler les prix, c'est que le mouvement de 2009 en Guadeloupe et en Martinique, il s'était battu pour des augmentations de salaire.
C'est-à-dire que la vie chère, c'est aussi ça.
Le résultat concret de ces mobilisations sur le monde, hein, et c'est une revendication assez typiquement syndicale, c'est que 2009, ça renouait aussi avec une posture de lutte assez offensive de la part des syndicats pour demander 200 euros d'augmentation pour tous les bas salaires, pour les gens qui touchaient jusqu'à 1,5 fois le SMIC et pour les gens qui vivent aux minima sociaux. Donc, le premier gain de pouvoir d'achat, outre le fait que les prix avaient été gelés en 2009, ça venait quand même de cette augmentation de salaire, ce qui est une revendication singulièrement absente en 2024.
Alors,
doit parler de ce qui s'est passé
En 2024.
En 2012,
Surtout, voilà, essayer de comprendre comment, si on s'arrête vraiment sur cette histoire de prix, la cherté de la vie vue sous cet angle-là, des marchandises, comment expliquer que les mesures qui ont été prises depuis 2009 n'aient pas eu d'incident, ou pas longtemps, sur vraiment le prix des marchandises, et en particulier dans l'alimentation?
Il y a ce qu'évoquait tout à l'heure Fred Constant, hein, sur la démultiplication des intermédiaires, alors qui, je me permets de le dire, et souvent un peu un écran de fumée, parce que la démultiplication des intermédiaires, elles reviennent assez souvent aux mêmes grands groupes qui en fait ont des entreprises dans lesquelles ils ont également des capitaux, et chacun ajoute un peu son grain de sel à la question du surcoût. On pourra rentrer un petit peu plus dans le mécanisme, mais ce qui fait que globalement, cette situation-là, elle est peu lisible, y compris pour des acteurs qui voudraient se positionner de façon contraignante, comme l'État, qui fait que ces situations c'est une mécanique un peu contre-intuitive. Si vous voulez intervenir de la part de l'État dans un marché pour le rendre plus concurrentiel, que ça soit l'État qui intervienne pour rendre le marché plus concurrentiel, ça demande à avoir une lisibilité sur la chaîne de formation des prix, sur les intermédiaires. Est-ce que ce sont les importateurs? Est-ce que ce sont les distributeurs? Et là-dessus, l'État a jamais été capable de se positionner de façon, contraignante, pour parvenir à réguler ces marges abusives et pour parvenir à réguler ces prix.
Et Fred
Ce qui fait que dans un contexte inflationniste comme on connaît, les prix continuent à être à la hausse, et depuis une quinzaine d'années, la vie chère, c'est vie toujours.
Et il y avait Fred Constant, pour être très terre à terre et sans rentrer même vraiment dans les racines de cette vie chère, un bouclier des prix qui devait fonctionner sur des milliers de produits, un observatoire de la formation des prix, des équipes pour contrôler tout ça. Où ça en est ?
Ouais, bah écoutez, ça n'a jamais vraiment pris corps. En réalité, le dispositif de la loi Lurel, je connais très bien ce sujet puisque j'étais au cabinet de Lurel à l'époque, qui était ministre, hein, faut
pas oublier. Victorin Lurel.
Oui, ministre des Outre-mer. Et c'est les préfets qui devaient, au sortir de ces accords, animer un comité de suivi des accords, donc dans chacun des départements concernés. Et ces comités se sont tenus peut-être à 3-4 reprises selon les départements. Et puis, il y a eu une démobilisation. Alors ça, c'est un point qui fait hurler les syndicalistes quand on leur rappelle, mais c'est la vérité. Les préfets ont arrêté de réunir ces comités parce qu'il y avait plus de participants. Hein, pour le dire, c'est aussi simple et étonnant que cela. Et donc, chacun, progressivement, est retourné à ses affaires routinières. Et le sujet ayant mobilisé fortement, il y a eu une démobilisation qui a suivi. Et cette démobilisation a été l'occasion pour tous les intermédiaires de reprendre ce à quoi ils avaient consenti au moment de l'effervescence sociale. Et ça a pris plusieurs années, d'où le fait que le mouvement de 2024, même s'il n'a pas la même ampleur qu'il y a celui de 2009, eh bien, il est la reproduction de causes qui n'ont pas été traitées. Et avant 2009, on n'en a pas parlé, je profite pour le dire, il y a eu d'autres épisodes antérieurs qui n'étaient pas coordonnés comme celui de 2009 entre plusieurs outre-mer et qui manifestaient la même exaspération sociale par rapport à ce phénomène de la cherté des prix qui là aussi renvoie à la structure oligopolistique des économies d'outre-mer.
Et une exacerbation en effet de la colère quand la grande distribution, c'est vrai, souvent se retranche sur cette question des intermédiaires qui, il faut en effet le reconnaître, sont au nombre de 13, 14, 15, 16, 17 parfois quand on parle des outre-mer alors qu'ils sont 3, 4 quand on parle de livraison dans l'Hexagone. En tout cas, à la mi-octobre dernier, l'État, la collectivité territoriale de Martinique et les grands distributeurs signaient un protocole d'accord pour une baisse de 20% des prix sur 6000 produits alimentaires. Il s'est agi essentiellement d'annuler pendant 3 ans 2 taxes qui sont la TVA et l'octroi en mer. Emmanuel Valls assure qu'un projet de loi sera présenté avant l'été.
Qu'est-ce que vous attendez du ministre ?
Rien du tout. Parce que quand vous regardez les événements, j'ai l'impression qu'ils sont tous en train de nous couillonner. Et comme je n'ai pas envie d'être couillonné, malgré que, je préfère ne pas m'occuper du tout.
Souvent, ils viennent et donnent de belles paroles et on ne voit pas le résultat.
Honnêtement, je pense qu'il faudrait qu'ils puissent agir directement avec les grands acteurs locaux afin de vraiment pouvoir diminuer drastiquement les prix. On voit qu'il y a eu un effort de fait récemment. Il y a quand même des prix qui ont légèrement baissé, mais honnêtement, ce n'est vraiment pas suffisant. La vie reste toujours très chère en Martinique et j'espère sincèrement que ça changera un jour.
Des Martiniquais et Martiniquaises rencontrés en mars dernier par Martinique la première. Alors l'État français n'a cette fois pas le monopole des griefs formulés en Martinique mais aussi en Guadeloupe. Les acteurs de la distribution sont les premiers à qui on demande des comptes et vous en avez déjà parlé, Pierre Audin, Fred Constant. Combien de distributeurs aujourd'hui sont présents aux Antilles d'ailleurs, Fred Constant ? Est-ce qu'il s'agit d'un quasi monopole ?
Non, il n'y a pas qu'un distributeur, Dieu merci. Il y en a 4.
Un oligopole alors.
Absolument, c'est ce que j'ai dit à l'instant. Il y en a 4 en Martinique. Il y en a un qui est plus important que les autres, qui est le groupe Ayotte, le groupe historique, qui était, là aussi, il faut rendre justice à la réalité, qui était un monopole de fait. C'est-à-dire que c'est pas le groupe Ayotte qui a décrété d'être le seul à organiser la distribution dans tous les domaines en Martinique. Il se trouvait que c'était un groupe issu, comme tous les autres d'ailleurs, hein, enfin, en tout cas en Martinique, de l'activité agricole. pétrole, de la filière canne-sucre. Vous savez, en fait, tous ces groupes se sont constitués au moment où cette activité est sérieusement entrée en crise. Et c'est des acteurs économiques qui ont recyclé tous les financements publics qu'ils recevaient pour maintenir l'activité de la filière canne-sucre-rhum dans le secteur de la distribution.
Et dans donc, les années 60-70, oh,
absolument,
à peu près.
Ça s'est passé à ce moment-là. Techniquement, nous avons toute une documentation en termes d'études économiques, d'études sociopolitiques, notamment une grosse étude du groupe qui s'appelait Groska, qui était coordonnée par nos aînés en sens social, Michel Giraud, Philippe Chalmard, tous ces gens-là. Et donc, c'est ce qui était établi déjà. Et c'est un phénomène que l'État a laissé faire, parce qu'on voyait très bien la translation qui s'est opérée entre les activités qui étaient à dominante agricole, agro-industrielle, tournées vers l'exportation, et progressivement, on est passé de ce type d'activité à des activités de distribution et qui gravitait autour de l'importation. Et ce mécanisme-là, qui accompagne ce qu'on a appelé la départementalisation des Outre-mer, c'est-à-dire la tertiarisation de ces sociétés, eh bien, malheureusement, il s'est fait aux dépens de la capacité productive locale, parce qu'au fur et à mesure que, si vous voulez, la qualité de vie individuelle de chaque Antillais, Réunionnais, Guyanais s'améliorait, quoi qu'on dise, et les chiffres sont là pour témoigner, eh bien c'était au prix d'une attrition de la capacité des sociétés à produire un minimum de commodités. Si, pour le dire autrement, à l'époque du statut colonial, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane étaient moins dépendants des importations alimentaires notamment, mais pas uniquement, qu'à l'époque départementale.
Et l'État français, les gouvernements successifs commencent à prendre cette demande au sérieux et ne la classent plus. On a l'impression, en tout cas, dans la catégorie militantisme post-colonialiste, qu'il ne faudrait pas prendre au sérieux ou balayer d'un revers de main.
Nous le répétons haut et fort, c'est la vérité. La société guadeloupéenne est basée et construite sur des rapports de classe et des rapports de race. Dire le contraire, c'est occulter la vérité. La vérité, c'est que la société guadeloupéenne est construite suivant les mêmes bases qu'il y a 400 ans. Aujourd'hui, ceux pour lesquels nos arrière-grands-parents travaillaient dans des champs de coton, dans des champs de canne, eh bien, on retrouve les arrière-petits-enfants de ces mêmes personnes-là dans l'import-distribution. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous sommes agents de sécurité, jardiniers, espaces verts, assistantes maternelles pour ces mêmes personnes-là. Rien n'a changé.
Elie Domota, le porte-parole du LKP, Mouvement contre la Pauvitation, secrétaire général de l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, lors d'une réunion en 2009 dans une salle du port autonome de Pointe-à-Pitre. C'est l'extrait d'un documentaire qui s'appelle 44 jours sur le mouvement de 2009 contre la vie chère, réalisé par Martine Delumeau et produit par Petit à Petit Productions. Tous les historiens aujourd'hui, Pierre Audin, sociologue, économiste, qui travaillent sur les Antilles, expliquent la très forte dépendance des Antilles aux importations comme d'un héritage du système colonial. Quels mécanismes ont perduré, Pierre Audin, et pourquoi?
Alors, moi, je m'étendrai pas tant sur le mécanisme à proprement parler, mais c'est vrai que le schéma d'importation, il découle, en fait, depuis l'époque du commerce triangulaire, depuis l'époque de l'exploitation de la main-d'œuvre esclavagiste, où, en fait, la première formulation de l'octroi de mer, c'est un impôt royal sur le fait d'exporter vers les territoires, vers les îles de la Caraïbe. Bon, mais ce sur quoi je voulais insister, c'est surtout la centralité un peu symbolique, et c'est ce qui est évoqué dans les paroles d'Elie Domota, la centralité un peu symbolique des familles béquées, blanches créoles, comme étant la figure de la domination économique aux Antilles. C'est évident que ça, c'est quelque chose qui a des répercussions dans l'imaginaire collectif. qui sont encore aujourd'hui très très fortes. C'est-à-dire le fait de savoir que les groupes de la grande distribution sont économiquement entre les mains de gens qui ont été des propriétaires terriens, des propriétaires d'esclaves, qui par la suite, et Frère Constant le rappelait, parce que la période des années 70, c'est une période de fermeture des usines sucrières. Donc,
beaucoup de chômage.
Dans la mémoire populaire, il y a aussi l'idée que ces gens-là ont mis les ouvriers guadeloupéens et martiniquais au chômage. Et par la suite, la suspicion que ça soit ces mêmes grands groupes qui organisent une forme d'opacité et des marges abusives sur les prix de consommation, bon, tout ça entretient un imaginaire dans lequel, effectivement, ils sont génériquement désignés comme ce qu'on appelle des profitants, c'est-à-dire des exploiteurs, des gens qui s'enrichissent sur le dos du peuple et de la population. Et cet imaginaire-là, comme le rappelle très bien Elie Domota, c'est un imaginaire qui est en partie racialisé, c'est-à-dire qu'on pense ces élites, ces profitants comme étant des familles blanches, là où on pense la classe ouvrière, le peuple, les gens d'en bas, les exploités, comme étant des personnes de couleur, d'ascendance africaine ou indienne.
Ce qui génère, comme vous le disiez, des suspicions, des fantasmes. La grande distribution serait un État dans l'État. Le groupe Ayotte, Bernard Ayotte et son fils seraient les vrais patrons de la Martinique, etc. Bon, il faut dire que si on prend par exemple le chiffre d'affaires de son groupe GBH en 2023, 5 milliards d'euros, c'est plus de 50% du PIB de la Martinique. Fred Constant, est-ce que cet imaginaire-là est le même en Guadeloupe qu'en Martinique? Les béquets qui contrôleraient, avec une part historiquement de vérité, comme on le disait, mais une part de fantasme?
Il est un peu différent pour des raisons historiques, puisque la Martinique a échappé, on va dire, aux rigueurs révolutionnaires, puisqu'elle était passée sous souveraineté britannique après la Révolution, alors que la Guadeloupe était restée. La Guadeloupe a connu l'arrivée d'un commissaire très zélé qui a procédé à la liquidation physique de certains béquets et en fait fuir pas mal. Donc les groupes sont les capitaux de l'Hexagone, on disait à l'époque de la métropole, n'est-ce pas, ont davantage pénétré la structure de l'économie en Guadeloupe qu'elles l'ont fait en Martinique. Ceci étant dit, les blancs créoles, ce qu'on appelle en créole les béquets qui existent en Guadeloupe, il y en a quelques-uns, sont venus de Martinique. Hein. C'est pour ça que même dans l'imaginaire guadeloupéen, eh bien, béquet, c'est un mot, c'est pas un mot, une réalité surtout martiniquaise, ce qui n'arrange pas les choses d'ailleurs quand on est en Guadeloupe et qu'on est béquet. Donc, mais en même temps, il faut dire que dans l'imaginaire d'un Antillais de couleur, les Antillais blancs, les béquets, ils ne sont pas qu'une figure repoussoire. Hein. Il y a une différence que les gens font entre un béquet qui est entre guillemets le frère mal aimé ou la sœur mal aimée dans le pays, enfin, qu'on veut présenter comme tel, celui qui vient de l'Hexagone et qui a aucune attache avec le territoire. Faut pas oublier ça, parce qu'il y a plusieurs. Je renvoie à ce qui s'est passé en 2009, notamment. Il y avait des barrages très très durs. Eh bien, on m'a rapporté, parce que j'étais pas témoin oculaire, que des gens qui étaient des béquets, donc identifiés comme tels, eh bien, ont pu passer les barrages pour telle ou telle raison, parce qu'ils amenaient un de leurs proches à l'hôpital ou faire des soins, enfin, il y avait là. Et sans encombre, parce qu'on les avait identifiés comme tels. Donc, il faut toujours garder cela à l'esprit, même si c'est un point de cristallisation qui peut avoir des conséquences très lourdes, parce que tout le monde n'a pas le recul pour faire la différence entre la position sociale d'un individu et son phénotype. Je dis même pas son appartenance ethnique, c'est pas une ethnie d'être béquet, c'est un phénotype particulier. D'ailleurs, la plupart des familles béquet, pour pas dire toutes les familles béquet, ont du sang noir dans les veines. Là, il faut lire Faulkner pour comprendre ça, parce qu'il y a cette obsession de la pureté qui démontre que dans la généalogie, il y a certainement eu du métissage.
En tout cas, le RPRAC, lui, ce mouvement en Martinique, dit se consacrer exclusivement à mettre en lumière les pratiques de la grande distribution sans jamais évoquer la question raciale, même si tout ça a fait débat en Martinique il y a quelques mois. Maintenant, quelles demandes sont expressément adressées à l'État français de la part du mouvement martiniquais? Pierre Audin, on a évoqué la grande distribution, les béquets, pour certains, avec toutes les nuances que vous avez mises, mais le fait, par exemple, qu'il n'y ait pas de fonds de continuité territoriale, comme la dotation que verse l'État à la Corse pour éviter les surcoûts, est-ce que c'est quelque chose qui est facilement explicable, entre guillemets, par l'État français aux Martiniquais et aux Guadeloupéens, et qu'est-ce qui est demandé précisément par ces mouvements?
Eh bien, sur l'idée de fonds de continuité, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'emploi aujourd'hui de cet impôt qu'on appelle l'octroi de mer et dont l'incidence sur les prix est extrêmement variable.
Hein, l'octroi de mer, il faut juste rappeler que c'est vraiment un impôt qui est reversé ensuite aux collectivités locales. Donc certains disent si on supprime l'octroi de mer, les collectivités vont être étouffées.
C'est ça. Ce qui est censé garantir d'une certaine façon le fonctionnement des collectivités et sur un modèle un peu similaire au fonds de continuité, c'est finalement qu'à travers cette taxation des importations en Guadeloupe et en Martinique, se mettrait en place une forme de financement au niveau des collectivités qui permet de faire fonctionner les services de l'État localement. Donc, en soi, il y a cette question, mais qui du coup est un peu à double tranchant, c'est-à-dire quelle intervention de la part de l'État, quelle forme de structuration. Il y a une demande extrêmement forte, mais qui est une demande aussi un peu symbolique, hein, de régulation, c'est-à-dire de remise à niveau et d'intervention de l'État qui soit plus ferme vis-à-vis des groupes de la grande distribution pour contrôler les prix. Et en même temps, il y a des interrogations sur la façon, alors non pas dont on finance les collectivités, mais sur la façon dont l'argent public peut être géré. Parce qu'il faut pas se leurrer, du point de vue de la population, il y a énormément d'interrogations. Je prends un exemple très clair pour que les auditeurs comprennent bien. Dans le cas de la Guadeloupe, par exemple, sur la question de l'eau, ça fait des années et des années que la question est en suspens au niveau de la régie publique de l'eau, du syndicat des eaux. Il y a plus d'une famille guadeloupéenne sur trois qui n'a pas d'eau au robinet plusieurs jours par semaine. C'est quelque chose qui demanderait une intervention extrêmement volontariste de la part des services de l'État. Et pour ce qui s'agit du coup de la distribution d'eau ou du traitement des eaux usées, il y a des insuffisantes flagrantes. Donc, la question de l'intervention de l'État, elle se joue à deux niveaux. Il y a évidemment ces questions-là sur la vie chère de régulation, formation des prix. Mais quand on parle aussi des subsides qui abondent dans les collectivités publiques, c'est de se demander qui est le plus taxé dans cette histoire et aussi pour quel résultat. Ça fait partie des questions qui sont des questions lancinantes parmi la population. Parce que la question de la formation économique, c'est importante, mais la question de la décision publique et de l'action publique sur le terrain, elle l'est aussi.
Fred Constant, à ce sujet, d'ailleurs, on a du mal à bien comprendre quelle est la position du mouvement martiniquais qui dit vouloir un transfert complet des pouvoirs de Paris vers Fort-de-France dans le cadre d'une autonomie totale. Il ne dit pas indépendance, mais autonomie totale. Qu'attendent ces mouvements de l'État français?
Oui, alors, c'est une bonne question pour montrer les contradictions des revendications du RPRAC, puisqu'il s'agit de lui. D'un côté, il y a cet appel à un renforcement des pouvoirs locaux, mais de l'autre, il y a une demande pressante formulée auprès de l'État visant à ou annuler ou diminuer fortement les taux de TVA. N'oublions pas que nous sommes sur la discussion sur les mécanismes de formation des prix, et donc la baisse ou l'annulation de la TVA sur certains produits alimentaires, ça fait partie des revendications.
Est déjà basse dans les Antilles, 8,5% la TVA contre
20%. Oui, mais ça dépend des produits. Hein.
D'accord.
Et donc l'État a fait dans le dernier, vous savez qu'on a eu difficilement, mais on a réussi à obtenir le vote d'un budget. Et dans ce budget, le budget Bérou, il y a une provision pour la baisse, une baisse vraiment contrôlée du taux de TVA sur un certain nombre de produits. Et il y a aussi, c'est une autre revendication du RPRAC, un provisionnement de crédit pour, on va dire, mettre en place un embryon de fonds de continuité territoriale, puisque vous savez, c'est un autre mécanisme qui permet de réduire le coût du transport maritime. Hein, c'est ce qui existe entre la Corse et l'Hexagone, le continent, comme disaient les Corses, et ce qui n'existe pas entre les Outre-mer. Et, alors, raison, vous avez posé la question, pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi? Parce que l'État, et quand je dis l'État, ce sont les gouvernements successifs, mais c'est aussi les parlementaires, ont estimé que le coût serait trop élevé. Et c'est là qu'on entre dans la même, une discussion qui est structurelle s'agissant de l'expression de la citoyenneté et de son contenu outre-mer par rapport à ce qu'elle est à l'Hexagone, c'est qu'il y a certains éléments de l'égalité républicaine qui sont refusés d'outre-mer parce que ça coûte trop cher au budget de l'État. Ou c'est présenté comme ça. Ce qui n'est pas un argument politiquement recevable quand on est un républicain assis sur ses convictions. On dira. En tout cas, c'est la réalité. Et ça, c'est pas nouveau. C'est très ancien.
Donc il y a ce que le mouvement demande à la grande distribution, à l'État français, la question aussi de voir dans quelle mesure les Antilles pourraient produire davantage de ce qu'elles consomment. Aujourd'hui, 80% de ce qui est consommé est importé. Encore faudrait-il que notamment les sols ne soient pas contaminés par le chlordécone. On en parle juste après La vie chère, cette chanson d'un chanteur martiniquais qui s'appelle Elvis Futur.
En bonne volée, en bonne profiter. People la leve mouche rouge. Sa yo gage chez ya yo ge trouvé. Pani la vie me senti fait. En bonne volée, en bonne profiter. En bonne montée, pour nous pour des vaches à l'air. Peuple a ga souffert. La vie a trop cher. En bonne volée, en bonne profiter. En bonne montée, pour nous pour des vaches à l'air.
Elvis Futur, chanteur martiniquais, et sa chanson La vie chère qui empoisonne d'abord le quotidien des habitants des Antilles et ensuite les relations entre l'État français et ses collectivités territoriales d'outre-mer. Le mouvement qui s'est fait entendre à l'automne dernier n'a pas manqué de rappeler ce pacte colonial qui agit encore aujourd'hui sur le maintien de structures économiques inégalitaires, une logique coloniale à l'œuvre aussi quand on parle du chlordécone.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Nous, on ne pouvait pas supporter l'odeur. Donc, on commençait à vomir. Et ça m'est arrivé 3 fois de tomber à cause de ces produits. Et notre santé se dégradait au fil des années. Même si j'ai failli y passer, mais je suis là aujourd'hui. On nous a sacrifiés.
On nous a sacrifiés, dit au micro de Stéphane Père pour France Info, Hélène Jaffard, qui a travaillé pendant 30 ans dans une plantation de bananes du territoire historique de la production de bananes en Guyane, à Acapester Bello, c'est dans le sud-ouest, utilisé à partir des années 70, interdit en 90. Le chlordécone, utilisé pour combattre les charançons, a abîmé durablement la santé des ouvriers, des habitants, alors même que la banane était très peu consommée sur place à l'époque. Bonjour Malcolm Ferdinand.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur martiniquais au CNRS, laboratoire IRISO de Paris Dauphine, en sciences politiques et philosophie. Vous avez écrit « S'aimer la terre », s'aimer s'apostrophe et le verbe « aimer » à l'infinitif, « défaire l'habité colonial » paru au Seuil l'année dernière. Alors, il se trouve, Malcolm Ferdinand, que l'État français a été condamné hier par le tribunal administratif de Martinique à indemniser 2 anciennes ouvrières agricoles, 10 000 euros chacune en réparation d'un préjudice, en l'occurrence le préjudice moral d'anxiété. Entre la plainte déposée par des associations contre l'État en 2006, le non-lieu au pénal en 2023, les appels des victimes, etc., il y a eu plusieurs décisions judiciaires. Mais vous dites que cet aspect judiciaire du chlordécone, ce n'est qu'un aspect mineur des choses. Pourquoi ?
Alors, je dis pas que c'est un aspect mineur. Je pense que la vérification de la quête de justice est nécessaire.
D'autant que vous avez été partie civile vous-même.
Tout à fait. Je le suis encore, partie civile au pénal et au volet administratif. Je dis juste que ce n'est qu'un des aspects du problème. Un aspect pour lequel, effectivement, la justice française, pour l'instant, est bien en mal de répondre aux demandes. Il y a cependant un autre aspect qui est celui de l'habité, celui de la terre, de le fait par exemple d'avoir une victoire en justice est non seulement souhaitable, nécessaire, ça permet d'assigner les responsabilités, ça permet de passer peut-être à boucler finalement une phase, de reconnaître les torts, ce que l'État français pour l'instant a du mal ou refuse de faire. Pour autant, la question de la manière d'organiser et d'habiter ces terres ne change pas uniquement avec, avec une décision de justice. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation, vous l'avez rappelé au début, de vie chère, de paniers, de caddies qui sont parfois 35 à 40% plus chers. Nous sommes dans une situation de non-souveraineté alimentaire. Et ça, ça ne change pas aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons été empoisonnés par une production de bananes qui est elle aussi majoritairement exportée. Et nous sommes assignés à des prix plus chers pour des produits qui sont majoritairement importés. Cela est le paradigme, en fait, à la fois du pacte colonial, de ce que j'appelle l'habité coloniale, qui consiste à dire vous n'allez pas produire ce que vous consommez et vous n'allez pas consommer ce que vous produisez.
Est-ce que des agriculteurs, des ouvriers agricoles dans les Antilles ont demandé pour leur part et peut-être même pendant longtemps l'arrêt de l'utilisation de ces pesticides?
Oui, la première fois où l'arrêt de certains pesticides, dont le chlordécone, a été demandé sur la place publique, se trouve en 1974 lors d'une grande grève des ouvriers agricoles.
Dont votre père Malcolm Ferdinand.
Et a fait partie, mais qui est connu sous le nom de grève de Chalvet. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est il y avait 11 points de revendication, avec des revendications d'ordre social, d'augmentation de salaire, de droit à la pause déjeuner, de gants, et le retrait de produits dont le chlordécone. Ce qu'il faut avoir en tête, ça a été la réponse donnée par l'État français à cette époque. Bon, des accords de fin de grève ont été trouvés, mais après que l'État a envoyé des forces militaires, donc la gendarmerie, réprimer ce mouvement social des ouvriers agricoles par des mises à mort. Deux personnes ont été tuées et un ensemble d'autres ont été blessées. Des mises à mort en toute impunité. À ce jour, aucune justice n'a été rendue face à ces ouvriers qui, non seulement étaient dans une situation sociale extrême, mais demandaient tout simplement le pain et la dignité. Et ça, c'est une constante qui a traversé le XXe siècle, et même avant si on pense à septembre 1970, en fait, avant au XIXe siècle, c'est une constante qui participe à l'imaginaire collectif de ce que représente l'État français, de ce que représente ce recours finalement à cette force militaire de la gendarmerie. On l'a vu encore en juillet 2020 avec le passage à tabac d'un jeune militant anti-chlordécone, Kézanne Hussier, dont les avocats sont poursuivis pour diffamation.
Donc pour vous, Malcolm Ferdinand, le chlordécone et la vie chère, tout cela participe d'une même logique, le résultat d'un processus historique, social, au cours duquel a été organisée l'exploitation des terres antillaises pour produire des données exportables, que ce soit la canne à sucre, mais aussi, en l'occurrence, les bananes, et il s'agissait aussi de maintenir des prix bas dans la métropole. L'utilisation du chlordécone, elle était justifiée à l'époque par la présence d'un petit insecte de 3 mm, le charançon, dans les bananeraies, et non pas la volonté d'abîmer les sols ou de nuire à la santé des ouvriers. Aujourd'hui, c'est l'argument qui est toujours donné à chaque fois. En quoi la nécessité même de combattre le charançon, pour vous, entre dans cette logique, cette même logique?
Alors, que ça soit clair, cet argument est absolument faux. Il n'y a rien de vrai dans cet argument. la volonté d'utiliser le chlordécone était, la raison de l'utilisation du chlordécone était de pouvoir augmenter l'accumulation capitaliste de propriétaires béquets de la terre. Le charançon, on le retrouve aux Antilles dès le milieu du 19e siècle. Il y avait des manières de lutter contre le charançon par une technique qu'on appelle le piégeage biologique depuis la fin du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Donc c'était la volonté d'aller plus vite, d'accumuler des profits qui a conduit à l'utilisation du chlordécone. Donc ça c'est une première, un premier élément. Mais le problème le plus important est une question à laquelle, il me semble, la France, mais aussi les sociétés antillaises doivent répondre. En tout cas, la France n'a pas encore répondu. Comment faire société et comment habiter la terre au sortir de la colonisation et de l'esclavage? L'abolition de l'esclavage, enfin la deuxième abolition de l'esclavage en 1848, a été octroyée, ça a été une lutte, sans que l'on change fondamentalement les manières d'habiter la terre, c'est-à-dire en maintenant des monocultures d'exportation. Nous avons ici, encore aujourd'hui, et c'est là que le problème de la vie chère ramène la question de l'habiter colonial dans son centre, nous avons à inventer une autre manière de faire monde, une autre manière de se relationner en fait avec la terre, bref, une autre manière d'imaginer ce que peut être une société au sortir de cette colonisation et de l'esclavage. Et cela va passer, cela doit passer par une recomposition du rapport à la terre, par des actions de réparation fortes. La France n'est pas le seul pays ancien empire colonial esclavagiste, pourtant c'est l'un de ceux qui a le plus de mal à engager des actions de réparation, de reconnaissance face à ce passé colonial esclavagiste, pour tout simplement envisager quelque chose de plus juste, quelque chose de plus beau, une manière de faire monde beaucoup plus désirable.
Et donc faire en sorte que les Antilles ne soient plus captives d'une relation avec Paris, reprendre en main leur production. Par exemple, vous parlez de défaire la plantation. Malcolm Ferdinand, peut-être une dernière question. Depuis des années maintenant que le problème est identifié, que le chlordécone est interdit, que l'Assemblée nationale a voté l'année dernière la reconnaissance de la responsabilité de l'État, est-ce qu'il faut vraiment encore à tout prix défaire l'habité coloniale, puisque tel est le titre de votre livre? Comment faire pour ne plus... Enfin, en postulant que tout est colonial, comment est-ce qu'on donne aux Guadeloupéens et aux Martiniquais une capacité de produire leur propre histoire et de produire leur propre alimentation aussi?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plantation, donc le champ avec les cannes à sucre, avec les bananes, n'est que la face émergée en fait, de ce que j'appelle l'habité colonial. C'est-à-dire cette manière de se penser sur Terre où tout l'ensemble du vivant va être assigné à l'accumulation capitaliste de profits. Et donc, ce n'est pas uniquement avec une déclaration publique qui, parfois avec peu de conséquences, que l'on change ce système. Cela passe par rétablir, restituer des terres, donner accès à la propriété des terres pour des paysans qui travaillent des productions vivrières. Cela passe aussi par une production scientifique qui est elle-même portée et travaillée par les Antillais et les Marquais et les Guadeloupéens et Martiniquais, avec la possibilité d'avoir accès à des bourses de recherche. Je donne un exemple. Parce que
très très rapidement, on arrive à la fin de cette émission.
Je souhaite
vous plaît.
Lancer un appel et interpeller amicalement mes deux collègues Pierre Roudin et Fred Constant. Aujourd'hui, toute production livresque, tout est écrit, est vendu 15% plus cher aux Antilles. C'est-à-dire que les données et l'information et l'accès à la culture est elle aussi plus chère.
Merci beaucoup.
Collectivement, à changer cet état de cause.
Merci Malcolm Ferdinand, dont votre livre à vous, j'imagine, S'aimer la terre, défaire l'habité coloniale, apparu au Seuil l'année dernière. Un tout petit mot, peut-être de conclusion, Fred Constant, faire en sorte que la Martinique ou la Guadeloupe reprennent en main leur production, c'est possible? La grande distribution, par exemple, veut bien soutenir la production locale?
Oui, techniquement, c'est possible, mais ça suppose une mobilisation sociale et politique de longue durée qui a commencé mais qui est trop intermittente pour arriver à ces objectifs.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Fred Constant, Géopolitique des Outre-mer, votre livre apparu au Cavalier Bleu et va être réédité là dans quelques jours. Merci beaucoup Pierre Audin également d'avoir été avec nous depuis Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Profitation avec un W donc, lutte syndicale et anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique, apparu aux éditions La Découverte. Merci. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Le Kenya demande de l'aide, Catherine, pour enrayer la violence des gangs à Haïti.
Sur le papier, Haïti bénéficie depuis juin dernier d'une mission multinationale d'appui à la sécurité avec plusieurs centaines de personnes envoyées par le Guatemala, le Salvador, le Belize, la Jamaïque et les Bahamas. Mais ce sont plus d'un millier de Kenyans qui sont en première ligne dans la lutte contre les gangs, rappelle le média haïtien Haibo Post. Il manque cruellement d'équipements, de soutien logistique adéquat, souligne le quotidien kenyan The Standard. Haibo Post, le média d'investigation, a d'ailleurs pu interroger des officiers kényans qui dénoncent, sous couvert d'anonymat, la dispersion des troupes sur plusieurs fronts, ce qui met en danger les Kényans loin de la capitale, comme à Pont-Sondé, à une centaine de kilomètres au nord de Port-au-Prince. Des dizaines de milliers d'Haïtiens ont d'ailleurs manifesté en mars, en avril et encore au début du mois contre l'insécurité et l'inefficacité de la stratégie sécuritaire de l'État, relève le quotidien haïtien Le Nouvelliste et le journal citoyen Réseau Noès. Plus de 1600 hommes, femmes et enfants ont été tués en Haïti rien que sur les trois premiers mois de l'année, alors que les groupes criminels ont intensifié leurs efforts pour étendre leur contrôle sur plus de 85% de la capitale Port-au-Prince, indique le quotidien québécois La Presse, sans compter de violentes attaques pour contrôler l'accès à la frontière avec la République dominicaine, alerte l'ONU et Radio Caraïbes International. Les groupes criminels continuent de s'armer lourdement, révèle la BBC, en faisant venir depuis les États-Unis des fusils d'assaut et des pistolets cachés dans des cartons de nourriture. Ils utilisent aussi leur connaissance du terrain pour tendre des embuscades aux policiers kényans. Vous voyez, cette barricade est récente, explique David Mbourou, un policier kényan face à la caméra d'Aibo Post, embarqué dans une patrouille à Port-au-Prince. Le feuillage vert posé sur des sacs de sable et des branches qui servent de barricade viennent d'être posées, dit-il encore. Mais regardez un peu plus haut, on peut voir une position de tir depuis l'immeuble d'à côté, là, à gauche. C'est donc dangereux pour notre patrouille, poursuit le policier kényan. David Mbourou raconte comment les gangs armés peuvent aussi creuser des tranchées derrière les barricades pour immobiliser les véhicules de police qu'il faudra ensuite récupérer avec le risque d'une nouvelle embuscade, rapporte Haibo Post. Face à cette violence, des groupes d'autodéfense, des brigades de quartier ont tué près de 200 personnes depuis le début de l'année. Des membres de gangs, mais aussi des civils innocents, comme le déplore un père de famille dans les colonnes d'Haibo Post. Son fils a été sommairement exécuté début janvier, alors qu'il était parti faire des courses dans un supermarché.
Haïti est donc à feu et à sang.
Délabrement, le titre de l'éditorial du journal haïtien Le National résume à lui seul l'état du pays. Le centre-ville de Port-au-Prince ressemble à un décor à la Mad Max. Et puis à Gressier, une commune située dans le sud d'Haïti, territoire dévasté, population abandonnée, titre le quotidien Le National. Depuis l'arrivée des gangs il y a un an, plus de centres de santé, plus d'entreprises privées, plus de transports, une centaine d'écoles ont fermé, énumère Le National. Plus de 40 000 personnes ont également dû fuir leur domicile pour se réfugier à Léogane, à quelques kilomètres de la capitale Port-au-Prince. Une vie dans des camps de fortune ou des familles d'accueil, et sur les 15 000 élèves déplacés de la commune de Gressier, 8 sur 10 n'ont pas pu retrouver le chemin de l'école à Léogane, précise Le National. Des jeunes femmes et des filles sont livrées à la prostitution. Plus de 300 cas de grossesse précoce chez les moins de 18 ans ont été recensés en un an. Plus à l'est, à Kenskoff, les gangs haïtiens étendent leur contrôle là aussi sur les terres agricoles, raconte Haibo Post. Les Haïtiens viennent grossir les rangs des déplacés à l'échelle de la planète à cause des guerres, des groupes armés, de la pauvreté, du dérèglement climatique aussi. Plus de 83 millions de déplacés à l'échelle mondiale. Un record, titre le quotidien Le National.
Enfin, Catherine, l'Amérique latine dit adieu à une icône de la gauche.
José Pepe Mujica est mort à l'âge de 89 ans. Cet ancien guérillero qui a présidé l'Uruguay de 2010 à 2015, rappelle le journal uruguayen El Observador, était connu comme le président le plus pauvre du monde en raison de son style de vie modeste, presque austère, selon le journal uruguayen La Repubblica, qui salue l'humanisme de Pepe Mujica, son engagement envers les causes sociales. Pourquoi, dans un monde qui méprise les politiciens, tant de gens l'appréciaient-ils ? Peut-être combattre parce qu'il avait des convictions que tant d'autres ont perdues, écrit El País América. Parmi les réformes sociales que Pepe Mujica a promues, la légalisation de l'avortement, du mariage homosexuel ou encore de l'usage récréatif de la marijuana, ce qui peut expliquer, selon la BBC, sa popularité assez inhabituelle pour un président de l'Uruguay, un pays de moins de 3,5 millions d'habitants. De Claudia Sheinbaum au Mexique à Lula au Brésil, de nombreux dirigeants d'Amérique latine saluent l'héritage de Pepe Mujica, comme le rapportent les quotidiens El Excelsior et O Globo. Tu nous as laissé un espoir inextinguible, a déclaré le président chilien Gabriel Boric, cité par le journal chilien El Siglo et la Radio Universidad de Chile. Tant que nos cœurs battent et que l'injustice persiste dans le monde, cela vaut la peine de continuer à lutter.
Merci beaucoup Catherine Dutu.